Les cinq piliers, les cinq sola. Sola en latin, ça veut dire seul. Alors, les cinq piliers de la réforme protestante. Je vous avais expliqué la fois passée que si on peut résumer le travail de la réforme, on pourrait exprimer cela avec cinq piliers, cinq principes importants. Sola scriptura, les écritures seules. Sola fide, la foi seule. Sola gratia, la grâce seule. Solus Christus, Christ seul. Et puis, soli deo gloria, à Dieu seul la gloire. Voilà les principes qui ont dirigé, qui ont commandé toute la pensée de la réforme. Dans la conception de la réforme, pour être sauvé, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui nous dit comment on est sauvé. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est le moyen pour être sauvé. C'est par la grâce. La grâce, ce n'est pas le moyen, mais c'est le côté de Dieu, c'est que Dieu met pour nous. Le seul moyen, le seul chemin par lequel on est sauvé, c'est en Jésus-Christ. Et le but pour lequel tout ça est fait, le but pour lequel nous sommes chrétiens et nous vivons, c'est pour donner la gloire à Dieu seul. C'est pour ça qu'on parle d'adoration, que Dieu est le seul qu'il faut adorer. Adorer, c'est donner gloire à Dieu. Alors, la fois passée, nous avions parlé de la sola scriptura, l'écriture seule. La Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine. Nous, dans notre confession de foi, nous disons la Bible est la seule autorité en matière de foi et de vie. Ça veut dire que pour nous, c'est ce que dit la Bible, c'est ça qui fait notre vie. Les choix de nos vies, notre façon d'être, notre façon de faire les choses, ce que nous devons remplir comme connaissance sur Dieu, ça vient de la Bible, parole de Dieu. Ce matin, nous allons voir le deuxième sola, sola fide, la foi seule. Le salut n'est pas donné par le sacrement ou par une religion, mais le salut, nous l'avons par la foi, au moyen de la foi. Donc, ce matin, nous allons passer un peu en revue rapidement. Sola fide, c'est un principe, un pilier important, très important, qui est abondant en termes de quand on regarde dans la Bible, la foi, c'est partout dans la Bible. Donc, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Mais je vais essayer d'orienter d'une certaine manière pour comprendre ça en rapport, bien sûr, avec la réforme. Prions. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton inspiration. Merci pour ta parole. Ta parole qui est parfaite. Nous la croyons dans son entièreté. Nous croyons qu'elle est vraie, qu'elle est juste, qu'elle est complète, qu'elle n'a pas de contradiction. Qu'aujourd'hui encore, cette parole peut nous toucher, changer nos vies, nous aider à être en phase avec toi, développer cette intimité, cette relation avec toi, mais en même temps à faire de nous des serviteurs, des bons témoins pour ta gloire. Seigneur, conduis-nous dans la vérité de ta parole. Conduis-nous maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons aborder ce point sur sola fide. Je voudrais peut-être faire trois points pour cela. Premier point, d'où vient le problème qui a amené les réformateurs à faire de sola fide un pilier important? Quel était le problème qui a fait qu'ils ont fini par affirmer ça comme étant un point important dans les principes de la réforme? Deuxième point qu'on va aborder, c'est en quoi est-ce que ce pilier est une véritable révolution dans la chrétienté? en quoi est-ce que c'est une marque propre aux protestants. Et puis, le troisième point, évidemment, c'est pour aujourd'hui. Qu'est-ce que cela nous invite à faire aujourd'hui? En réponse à ce qu'ils ont fait, à tous ces sacrifices, parce que derrière tout ça, il y a eu des hommes qui se sont battus, qui ont affirmé des vérités au prix de leur vie. On les a persécutés, certains ont été brûlés vifs, vivants, à cause du fait qu'ils ont affirmé ces vérités que nous enseignons en toute liberté aujourd'hui. Nous avons facile aujourd'hui. Alors, quelle réponse? Qu'est-ce que ça a comme impact sur nous aujourd'hui? Premier point. Comment est-ce qu'on est arrivé à établir un principe comme celui-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que Luther, Martin Luther, était un moine. Et il appartenait à l'ordre des Augustins. Vous savez que dans l'Église catholique, il y a des différents ordres religieux. Vous saviez ça, non? Oui ou non? Ah, quand même. Et que dans ces ordres, il y a notamment l'ordre des Augustins. Et les Augustins, c'est ceux qui suivent la pensée, la doctrine de Saint-Augustin. Et un des points importants dans la pensée de Saint-Augustin, c'était que ils avaient soutenu l'idée que la grâce a un grand rôle à jouer dans le salut, pour le salut de l'homme. Nous sommes sauvés par la grâce. Et pour eux, la grâce est quelque chose de très important pour le salut de l'humanité, de l'homme. Et en même temps aussi, qu'ils croyaient aussi que la nature pécheresse de l'homme l'avait tellement corrompu qu'il était incapable de se sauver par lui-même. Ça, c'est proche des protestants. Ouais, c'est normal. C'est Martin Luther. Et donc, c'était une pensée qui s'opposait à un autre moine qui s'appelait Pélagius, qui lui affirmait le contraire. Il disait que la grâce n'était pas très, très importante pour être sauvé. Il suffisait que tu sois déterminé, toi, et t'es sauvé. Et puis, le péché, ce n'est pas très, très, très grave. Et donc, Martin Luther est parti de cela. Mais le problème auquel les moines augustins, l'ordre des Augustins n'arrivait pas à... Le problème qu'il n'arrivait pas vraiment à bien résoudre, c'était la question de savoir, ok, d'un côté, il est vrai que la grâce est très importante pour le salut, il est vrai que l'homme est tellement corrompu qu'il ne peut pas se sauver par lui-même, mais comment il fait l'homme alors pour être sauvé? Comment il fait? Et là, saint Augustin a choisi la solution qui est celui de dire, pour être sauvé, il faut que l'homme fasse des œuvres. Il faut qu'il fasse des actions. C'est à travers ces actions qu'il va pouvoir être sauvé. Et là, malheureusement, même si Luther au départ croyait cela, l'expérience de vie personnelle de Luther l'a emmené à se rendre compte que ce n'était pas exact. Luther a été un homme qui voulait vraiment être sauvé, tomber dans, avoir une bonne relation avec Dieu, avoir cette conviction qu'il est sauvé. Et donc, Luther a commencé à faire beaucoup d'efforts. Vous savez que c'était un homme très angoissé, qui se posait beaucoup de questions. Ce n'était pas un type qui restait tranquille. Et il a fait beaucoup d'exercices spirituels. Il faisait beaucoup de choses, donnait des aumônes aux pauvres. Il faisait beaucoup d'actions pour attirer les regards de Dieu et les grâces de Dieu. Vous savez qu'il allait jusqu'à se faire mal au corps. Vous connaissez cette histoire, je ne sais pas si vous avez regardé le film, mais dans le film Luther, il y a ça aussi, mais dans d'autres témoignages historiques aussi, il se flagellait même pour essayer de faire souffrir son corps qui est pécheur, afin de pouvoir s'élever vers Dieu. Et toutes ces choses ne lui ont donné aucun résultat. Pire encore, plus il faisait cela, plus il était malheureux, plus il ne trouvait pas la paix. Ça n'allait pas. Un jour, un moine, son conseiller spirituel dans le monastère, va lui dire, écoute Luther, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. On voit bien que tu es toujours en peine, tu es toujours en train de souffrir, tu es angoissé. Je vais te proposer quelque chose. Je te donne la Bible, tu étudies la Bible et tu commences à faire les commentaires sur le texte biblique et tu vas l'enseigner aussi à l'université. Luther accepte. Et en lisant l'Épître aux Romains, là, il a une révélation. Il découvre quelque chose auquel il n'avait jamais pensé. Et nous allons le voir à travers Romains chapitre 4, le verset 1 à 8. Il va découvrir à travers ce texte une vérité qui va complètement révolutionner sa façon de penser. Donc, tandis que Jacob va retrouver, donc nous comprenons qu'en fait, tout en étant Augustin au départ, là, il décale de la foi des Augustins, parce qu'il découvre une vérité. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit le texte? Romains chapitre 4, verset 1, oui. Que dirions-nous donc? Que dirions-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. C'est parce qu'il a cru que Dieu l'a déclaré juste. Ça veut dire qu'il n'a fait aucun effort. Juste croire. Le fait de croire, aux yeux de Dieu, il était juste. Donc, c'est-à-dire justifié, rendu juste, regardé comme quelqu'un d'acceptable devant Dieu. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Quand on fait un effort, eh bien on a un salaire, une récompense, une chose due. Et ce n'est pas du tout une grâce, c'est-à-dire ce n'est pas une faveur. Quand tu travailles, tu mérites un salaire. Mais quand tu ne fais rien, tu peux mériter une faveur. À celui qui ne fait point d'œuvre, or, à celui qui ne fait point d'œuvre, qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux, ça c'est le psaume 34. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Voilà que, à travers ce texte, Luther découvre une vérité fondamentale. Il comprend que ce ne sont pas les œuvres de l'homme qui le rendent juste devant Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui déclare celui qui est juste devant lui. Il le déclare, il déclare le pécheur juste au moyen de la foi. De la foi en qui? De la foi en Jésus, de la foi dans ce que Jésus a accompli à la croix. Donc quand je crois que vraiment Jésus est vraiment mort pour moi à la croix, quand je crois que je suis vraiment pécheur et que à la croix c'est Jésus qui meurt à ma place, le fait de le croire et de tirer les conséquences de cela, aux yeux de Dieu, je suis déclaré juste, c'est-à-dire que j'ai réglé mon problème avec Dieu. Luther réalise donc que le pécheur est sauvé au moyen de la foi et non par les œuvres. Ce n'est pas en faisant des efforts que je mérite mon salut. Le salut ne se mérite pas. Le salut se donne et Dieu le donne en échange de notre foi, simplement. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9. C'est l'apôtre Paul, il dit ceci, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Qu'est-ce que c'est? C'était quoi ces choses-là? C'était sa gloire. N'oubliez pas, l'apôtre Paul avait une formation théologique. C'était un théologien, c'était un rabbin, c'était quelqu'un qui avait un niveau spirituel, un niveau de connaissance de la parole de Dieu très élevé. Il était à l'école de Gamaliel. C'était un homme, un pharisien, qui était promis à des hautes responsabilités. C'était quelqu'un qui devait être très important dans le monde religieux de cette époque-là. Mais toutes ces choses, il ne les a pas regardées comme étant des gains, mais au contraire, comme quelque chose qui ne vaut pas la peine à cause de Christ. Verset 8, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non, non, avec ma justice, c'est-à-dire non avec tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis. Je viens pas devant Dieu en disant, voilà, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, j'ai commandé ça, j'ai été comme ça. Non, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous sommes sur des terrains différents de ceux que, dans lesquels se trouvaient à l'époque même les Augustins. Il découvre une révélation fantastique, à savoir qu'on est sauvé par la foi. Et ça continue encore. Ainsi, non seulement là, par la foi, le sauveur est sauvé, mais par toutes sortes d'actes, on ne peut pas être sauvé. Et Éphésiens chapitre 2, verset 4 aussi à 9, dit la même chose. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que dit ce texte? Vous le connaissez aussi, Éphésiens. T'as pas Éphésiens? Waouh! Bon, je peux le lire pour eux. Attention, ils connaissent. Hein. Ils sont tous des grands connaisseurs, là. Hein, n'est-ce pas que vous connaissez bien la Bible? Hein? Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 9. Je suis désolé que je pensais l'avoir écrit, mais ça m'a sauté sûrement. La ligne est partie, quoi. Sinon, je le trouve pour eux, hein, si jamais. C'est pour ça, mes amis, il faut que vous ayez vos Bibles avec vous. Hein. Ne venez pas comme des bourgeois sans Bible en disant on compte sur le, hein, sur cette affaire-là. La technologie peut nous lâcher. Hein. Alors gardons nos bonnes vieilles méthodes hein, quand il n'y avait pas tout ça. Quand il n'y avait que le livre à la main. Tu as trouvé, Jaco? Ah oui, il est là déjà, c'est très bien. Éphésiens chapitre 2, du verset 4 à 9, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce » par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et pour bien préciser de quoi il parle, il dit, cela ne vient pas de vous. Personne ne peut se sauver. Ce n'est pas par nos actes qu'on peut se sauver, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mes amis, si nous sommes sauvés, ce n'est pas du tout parce que nous sommes beaux, nous sommes grands, nous sommes intelligents, nous avons une maîtrise de soi. Non, on n'a rien en nous. Tout ce qui est en nous est péché. Et nous ne pouvons rien faire avec nous-mêmes, sauf d'aller compter sur la grâce de Dieu. Et nous sommes sauvés parce que nous croyons que Dieu nous fait cette grâce. Nous croyons que Dieu nous a aimés. Nous croyons que Dieu nous a sauvés. Nous croyons que dans notre nature pécheresse, cette nature peut changer. Nous le croyons. Donc cette foi, ici, on voit que cette foi, ça devient en fait la confiance. La confiance dans ce que Dieu dit. La confiance dans le plan merveilleux de Dieu pour nous. La confiance. La confiance, mais aussi l'engagement. C'est pas seulement que je crois ces choses, mais je mets ma vie là-dedans. Je mets ma tête, je m'engage là-dedans. Je reste pas que, ah oui, 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 c'est vrai que, et je reste sur le pont là, je ne bouge pas de mon truc. Ouais, les gars, c'est vrai, cette histoire-là, c'est la vérité, mais moi, vous savez, je reste bien ici, c'est très très bien. Non, 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 non. C'est aussi l'engagement. Un exemple simple, c'est Abraham. Pourquoi est-ce qu'Abraham, sa justice, a été comptée? Pourquoi est-ce que Dieu a compté cela? Parce qu'Abraham ne s'est pas content d'entendre la voix de Dieu et de dire, oui Seigneur, amen, je dois partir, oui Seigneur, oh, oui, 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 oui. Et c'est tout. Non, Abraham est parti. Il a tout abandonné. Il a tout laissé. À la voix du Seigneur, il est parti. Pourtant, Abraham avait des richesses. Il était l'héritier d'une très grosse fortune. Il aurait pu, avec ce qu'il avait comme vie, réussir sa vie. Mais il a entendu la voix de Dieu et il est parti. Derrière la foi, il y a la notion de l'obéissance. Derrière la foi, il y a la notion de la confiance. Confiance que sur ce chemin où je vais, je ne sais pas où je vais, mais je confiance en celui qui me conduit sur ce chemin-là. Derrière la foi, il y a l'audace, le courage. On dit souvent que les chrétiens sont des... je vais éviter ce mot parce que je le dis souvent avec les jeunes, je ne le dis pas avec vous. Les chrétiens, on dit souvent qu'ils sont des lâches, des faibles. C'est ce qu'on dit souvent des chrétiens. Mais il faut beaucoup de foi, il faut beaucoup de courage pour avoir la foi. Beaucoup de courage pour pouvoir se dire, je ne vois pas Dieu, mais pourtant, ce que je lui demande, je sais qu'il va me l'accorder. Il faut beaucoup de courage pour obéir à la parole de Dieu. Mais, évidemment, ça ne nous permet pas toujours de... Comment nous, on peut avoir la foi? D'où vient la foi? Ici, Éphésiens nous a dit, c'est un don de Dieu. Ça vient de Dieu. Ok? Mais comment? Comment? Et je crois qu'il y a un texte qui peut nous aider et qui peut nous accompagner. Tu as quand même Romains 10, 17. Oui, tu l'as? Impeccable. Eh bien, ce texte nous dit comment nous avons la foi. Ainsi, la foi vient de quoi? De ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Notre foi, celle qui nous fait connaître Jésus comme étant le Sauveur, celle qui nous sauve, la foi des chrétiens, elle a sa source dans ce que nous avons entendu de la parole de Dieu. C'est là que notre foi naît. C'est à partir de là que nous avons la foi. Et c'est cette foi-là qui va prendre vie en nous. C'est ce cadeau de Dieu. C'est Dieu donc qui suscite notre foi à travers l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça, mes amis, beaucoup de gens ne comprennent pas que quand on doit évangéliser, tu ne dois pas seulement que raconter ta vie. Tu ne dois pas seulement dire, voilà comment moi je me suis converti, j'étais un bandit et puis je suis devenu gentil. Ce n'est pas seulement que ça. Mais j'étais un bandit et puis j'ai changé. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai changé? Il faut dire, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai découvert quelque chose que la Bible m'a dit. Et c'est ça qui a entraîné ma conversion. Parce que c'est la foi, elle prend sa source dans la parole de Dieu. C'est un acte, bien sûr, subjectif. La foi, c'est quelque chose de subjectif. C'est-à-dire que tous, nous avons notre foi à notre manière. Chacun a sa réalité de la foi. Mais, quelle que soit notre façon de croire, d'aller dans notre démarche de foi, c'est toujours suscité par la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus disait que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Il y a un travail du Saint-Esprit. Deuxième point. Oula. Je croyais que ça allait. Deuxième point. Je vais être plus court avec mon deuxième point. En quoi est-ce que ce pilier est une véritable révolution et une marque propre au protestantisme? Imaginez toute l'organisation de l'Église catholique de l'époque, organisée autour du fait qu'on est sauvé par les actes, par les bonnes actions, par les bonnes œuvres. Imaginez toute cette organisation-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette organisation-là? Il y a des sacrements. Il y a des pénitences. Il faut aller se confesser chez le prêtre. Il y a des aumônes. Il faut aller donner aux pauvres. Il y a des indulgences. Il faut payer. Il faut donner de l'argent pour avoir le salut. Il y a des actes qu'on pose chaque jour. C'était ça, la vie. Mais imaginez maintenant, un homme se lève au milieu de tout ça et ose dire, non, tout ça, ça ne sauve pas. Vous pensez qu'il va vraiment être beaucoup aimé par les autres? C'est tout un système qui va faire écrouler. Et Martin Luther, en affirmant que ce qui sauve, ce n'est pas les œuvres, mais la foi, eh ben, il met KO deux choses. Il met en mal deux choses de l'époque. Première chose qu'il met en mal, c'est l'importance du clergé. Tout le clergé catholique, le pape, les évêques, les cardinaux, les prêtres, etc. Il les met KO parce que, quelque part, mais ils n'ont plus de rôle à jouer pour le salut. On peut être sauvé juste en lisant la parole de Dieu ou grâce à un autre. On n'a pas besoin d'un prêtre pour ça. Il met KO l'institution, la curie romaine, mais il met aussi KO une autre chose. Il met aussi KO tout le commerce des œuvres. Ça n'a plus de sens d'acheter son salut avec des indulgences, etc. Il met KO tout le commerce des œuvres. Et c'est là que, quand je vous parle d'une révolution, c'est là qu'il y a une vraie révolution qui se produit. Parce qu'il met en lumière la vraie originalité du christianisme. C'est la seule religion au monde où, pour être sauvé, il ne faut pas poser des actes. Toutes les religions, sans exception, pour être sauvé, il faut des œuvres. Sauf le christianisme. C'est la seule religion où il faut la foi pour être sauvé. C'est une vraie révolution. Et c'est une révolution qui procède dans une logique totalement inverse de l'Église, de ce qui était dans l'Église catholique. Et cette logique se justifie par le fait que l'homme est tellement pécheur qu'il est englué dans son péché. Et donc, il est incapable de pouvoir aller se sauver. C'est Dieu qui vient le chercher. C'est Dieu qui vient le sauver. C'est Dieu qui vient l'attirer vers lui. Parce que lui n'est pas capable de le faire par lui-même. Donc, il faut que l'homme, pour cela, pour être sauvé, accepte l'œuvre de la croix en sa faveur. Si tu n'acceptes pas, c'est pour ça que quand nous parlons de Jésus aux gens, si les gens disent « Oh, moi c'est des foutaises, je n'en veux pas », il ne peut pas être sauvé. Il y a quelqu'un qui dit « Oui », il va être sauvé. La foi n'exclut pas les œuvres, mais la foi permet les œuvres. La foi rend réelle la manifestation des œuvres. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas... Ça, c'est une phrase de Luther. Luther disait quelque chose comme « Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui font l'homme bon, mais c'est l'homme bon qui fait les bonnes œuvres. » On le dit aussi avec la nature, n'est-ce pas ? On reconnaît un arbre à son fruit. Si le fruit est bon, ça veut dire que l'arbre est bon, et pas le contraire, hein. Dans l'Église catholique, c'était l'idée contraire, bien sûr. C'est à travers les œuvres qu'on va reconnaître si quelqu'un est bon. Mais c'est pas ça. C'est l'homme qui est bon qui produit les bonnes œuvres. L'homme qui est mauvais produit les mauvaises œuvres. Les œuvres, donc, accompagnent la foi de celui qui est sauvé. Donc, on ne fait pas les œuvres pour être sauvé, mais on les fait par reconnaissance, par témoignage, parce qu'on a été sauvé. C'est du cœur que sortent les bonnes choses. Si mon cœur est mauvais, il sortira que des choses mauvaises. Si mon cœur est bon, ne sortiront que des choses bonnes. C'est comme ça. C'est un principe spirituel simple. Troisième point, on va s'arrêter à ce point. À quoi est-ce que aujourd'hui ce pilier nous invite ? J'aimerais peut-être juste deux choses importantes. Dans 2 Timothée 1, 14, juste cette phrase de Paul, j'aime bien ça. Écoutez ça. « Garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Le dépôt, sous-entendu de la foi. La foi est un dépôt. Vous savez, l'idée que l'apôtre exploite ici avec le dépôt est une idée très simple et très, très, très actuelle. Le dépôt, c'est comme quand tu prends ton argent, tu vas déposer à la banque. C'est un dépôt que tu fais. Tu le confies entre les mains des banquiers parce que là, il y a la garantie, il y a l'assurance que ton argent va être protégé. La foi est un dépôt. C'est un don que Dieu a déposé en nous par sa parole. C'est un dépôt que nous avons reçu, que nous utilisons à notre façon, subjectivement. Ce texte dit, garde le dépôt. C'est-à-dire, protège-le. Sois-en le bon, la bonne sentinelle. Garde-le, veille à ce que ce dépôt reste intact. Veille à ce que ce dépôt soit vivant. Autrement dit, garde ta foi vivante. Sois vigilant, sois actif. Ne sois pas passif alors que tu es croyant. Il y a une responsabilité qui est la nôtre de veiller sur notre foi. Et une foi, elle meurt à quelles conditions? Comment on peut faire mourir la foi? Dans la foi, il y a deux composantes, je vous ai dit ça. Deux composantes. Il y a les vérités divines, c'est Dieu qui met ça dans nos cœurs. Et puis il y a la confiance. La confiance, c'est-à-dire nous qui croyons, qui faisons confiance à Dieu. Donc il y a le côté de Dieu et le côté de l'homme ensemble. Je perds ma foi lorsque je m'éloigne des vérités divines. Lorsque je ne lis plus ma Bible, lorsque je ne connais plus que dit la Bible, lorsque je ne pratique pas les vérités de la parole de Dieu, je perds ma foi. Mais je perds ma foi aussi quand je laisse commencer à entrer dans mon cœur le doute à travers les épreuves, les tentations, les difficultés. Je commence à dire, est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu vraiment agit? Est-ce que Dieu vraiment m'aime? Là, je commence à avoir des problèmes avec la foi. Garde le dépôt de ta foi. Sois celui qui veille à cela. Sois la sentinelle. Conserve. Sois le conservateur. Comme au musée, sois le conservateur. Celui qui fait en sorte que ta foi reste vivante. Elle soit propre. Elle soit toujours correcte. C'est encore un point qu'on peut développer en détail, mais le temps nous est imparti. Deuxième chose à laquelle j'ai pensé sincèrement, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous ne faisons que passer. Nous sommes en route vers le ciel. Oui, je n'annonce pas ma mort. Rassurez-vous. Mais c'est une réalité biblique. Même si je devais vivre 1000 ans sur la terre, il y aura quand même une fin quelque part. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est-à-dire que tant qu'on est sur la terre, on n'est pas tout près de Dieu. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle de son ministère, qui dit combien c'est plus important pour lui d'être au ciel avec Dieu. Tellement sur la terre il y a des misères, il y a des problèmes, il y a tout ça. Ce corps est un corps exposé à toutes sortes de choses. Mais il dit que tant qu'il est sur la terre, il marche non par la vue, mais par la foi. Marcher par la foi, ça c'est une chose que nous devons apprendre à faire. Faire de notre vie une marche dans laquelle nous ne regardons pas avec nos yeux, mais nous regardons par la foi les choses. Je cherche du travail. Je dois me réconcilier avec quelqu'un. Je dois faire des démarches. Je dois m'occuper de ma famille. Je dois faire face à des difficultés. Ou je dois faire des choix. Je suis dans des moments agréables. Comment je marche? Est-ce que ce sont les éléments de la vie de tous les jours qui attirent ma réflexion? Ou bien c'est la foi en Dieu? Est-ce que c'est une démarche que je fais dans la foi? Ou bien simplement me disant, oui c'est logique, hein, lui il a une barbe, donc je tiens compte de sa barbe, et puis comme il a une barbe, ça veut dire que je dois éviter de parler des rasoirs, etc. Est-ce que je suis sur la réalité? Sur ce que je vois? Non, je blague, t'as pas la barbe. Est-ce que tu es sur la réalité des choses ou bien sur la foi en Dieu? Quand je fais ma démarche, est-ce que je suis en train de me dire, ok, Seigneur, toi qui connais le vrai, dans le choix que je vais faire, aide-moi, guide-moi à faire le bon choix, même si c'est un choix qui va choquer les autres. Mais je fais le choix que toi, Seigneur, tu m'inspires par la foi. Quelqu'un me disait, Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il me disait. Il disait, moi, tout ce que je fais dans ma vie, tous les programmes que je fais dans ma vie, eh bien, je prie, je le confie entre les mains de Dieu. Seigneur, réalise cela pour moi, réalise ça avec moi. Si ce n'est pas possible, c'est pas possible. Je laisse tomber, c'est pas grave. Mais je veux le faire avec toi, dans la foi. Marcher, non selon la vue, c'est-à-dire pas vivre notre vie en raisonnant comme les gens de ce monde, mais vivre notre vie en mettant Dieu dans le coup, en mettant notre foi en Dieu, notre confiance en lui, et en recommandant les choses entre ses mains plutôt qu'entre les mains des hommes. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Deux choses. Ces gens se sont battus, et ils se sont battus pour qu'aujourd'hui nous puissions, nous, garder le dépôt de la foi. Ces gens se sont battus pour qu'aujourd'hui nous, nous puissions marcher selon la foi et pas selon la vue. Que le Seigneur nous aide, nous accompagne, nous soutienne dans cet élan et qu'ainsi, par son nom et pour sa gloire, nous puissions aller de l'avant. Amen.